Si vous pouviez choisir, quelle distinction aimeriez-vous recevoir ? La médaille d'honneur du travail ? La médaille pour acte de courage et de dévouement ? L'ordre des arts et des lettres ? L'ordre des palmes académiques ? L'Ordre national du mérite, l'Ordre national de la Légion d'honneur. Peut-être de manière plus simple, plus pragmatique, celle de la meilleure maman au monde, celle du papa le plus cool, celle du meilleur ou de la meilleure cuisinière, celle du grand-papa ou de la grand-maman la plus gentille, celle de la tata ou du tonton le plus rigolo, celle de l'ami fidèle. Bon, je m'arrête là. Ce matin, j'aimerais vous proposer une autre distinction et nous encourager à la rechercher. Une distinction qui peut-être ne paye pas trop de mine et qui pourtant est tellement importante. Une distinction qui correspond dans notre série sur les béatitudes à la septième et avant-dernière béatitude où Jésus déclare heureux les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, dit Jésus, car ils seront appelés fils de Dieu. Chers amis, quand on parle de nous, qu'est-ce qui se dit ? C'est une ou un fauteur de troubles ? Ou bien c'est une ou un artisan de paix ? Qu'est-ce qui nous caractérise ? Qu'est-ce qui caractérise notre vie, notre influence sur la vie des autres ? À la suite de notre béatitude, je vous propose de considérer qu'être une ou un artisan de paix est peut-être la plus haute, la plus noble distinction que quelqu'un puisse recevoir. Ça tombe bien, parce que si je comprends bien les béatitudes, tous les disciples de Jésus devraient être des artisans de paix. Tous les disciples de Jésus devraient bâtir des ponts de réconciliation et non des murs de séparation, qui sont toujours la solution de facilité, mais pas la volonté de Dieu. Le monde dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Jésus dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Avant de parler de ce qu'est un artisan de paix, il faut d'abord définir la paix. De quoi parle-t-on dans cette béatitude ? De quelle paix parle Jésus ? C'est quoi la paix ? Si j'en crois le petit Robert, la paix, c'est essentiellement trois choses. Premièrement, c'est les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit, en querelle. Deuxièmement, c'est la situation d'une nation, d'un État qui n'est pas en guerre. C'est les rapports entre États qui jouissent de cette situation. Et puis troisièmement, c'est l'état d'une personne que rien ne vient troubler. Ceci dit, dans la Bible, la paix, c'est plus que cela. C'est même bien plus que cela, bien plus que seulement l'absence de conflit ou de trouble intérieur. Le mot shalom dérive d'une racine qui, selon les emplois, désigne ce qui est intact, le fait d'être complet. Et voici une citation dans un ouvrage de vocabulaire de théologie qui dit ceci. « Aussi la paix biblique n'est-elle pas seulement le pacte qui permet une vie tranquille, ni le temps de la paix par opposition au temps de la guerre ? Elle désigne le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec Dieu. Concrètement, elle est une bénédiction. Elle est bénédiction, repos, gloire, richesse, salut, vie. Nous voyons ici, sans pouvoir entrer dans les détails, que loin d'être seulement une absence de conflit ou de trouble, la paix biblique est plénitude du bonheur. Un bonheur plein dont Dieu est le centre, le cœur. Pas de paix véritable au sens biblique sans Dieu et sans sa justice. En fait, dans l'Ancien Testament, et donc aussi au temps de Jésus, je cite à nouveau le vocabulaire de théologie biblique, qui dit ceci, « La paix, c'est la somme des biens accordés à la justice. Avoir une terre féconde, manger à satiété, habiter en sécurité, dormir sans crainte, triompher de ses ennemis, se multiplier, et tout cela en définitive parce que Dieu est avec nous. » Si la Bible nous parle d'une paix véritable dont Dieu est le centre, elle nous présente aussi Dieu comme le Dieu de la paix ou le Dieu de paix. C'est le point suivant. Et voici rapidement quelques versets qui soulignent cette réalité dans le Nouveau Testament. Très brièvement, Romains 15, 33, « Que le Dieu de paix soit avec vous tous ». 2 Corinthiens 13, 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection ». Consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je mets les autres à l'écran sans les lire, et il y en a beaucoup d'autres. De façon claire et indubitable, Dieu nous est présenté dans les Écritures comme le Dieu de paix. C'est donc lui qui en est la source de la paix véritable. Et c'est en lui et en lui seul qu'il faut aller la puiser. Et puisque Dieu est caractérisé par la paix, il n'est pas étonnant que Jésus, son fils, soit appelé par le prophète Ésaïe le prince de paix. En effet, c'est par Jésus qu'est possible la paix véritable, la paix du Dieu de paix. Il est celui qui nous laisse la paix, qui nous donne sa paix. Il est l'incarnation et la manifestation de la paix qui vient de Dieu. En parlant de la paix, le Nouveau Testament parle de plusieurs réalités qu'il faut bien distinguer pour pouvoir ensuite bien définir ce que c'est qu'être un artisan de paix. C'est donc notre point suivant. Premièrement, il y a la paix avec Dieu. Paul écrit aux Romains, chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Cette paix traduit la réconciliation par Jésus entre le Dieu trois fois saint et l'homme pécheur. Oui, nous étions ennemis de Dieu, mais par la foi en Jésus, par son œuvre à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et le Nouveau Testament le dit à de très nombreuses reprises et très clairement. Romains 5, verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Et puis Colossiens, chapitre 1, versets 19 à 22, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Et c'est tout cela, cette œuvre de réconciliation qui fait dire à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, versets 13 à 16, que Jésus est notre paix. que Jésus est notre paix. La paix avec Dieu, l'œuvre de réconciliation avec Dieu le Père, est clairement par le Fils. Il n'y a pas de doute. Mais elle ne concerne pas notre béatitude. Cette paix-là n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas à nous de la produire. Cela appartient à Dieu. Nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être artisans de cette paix-là. Nous pouvons en être les témoins, mais nous ne pouvons pas en être les artisans. La deuxième réalité concerne la paix, qui concerne la paix décrite dans le Nouveau Testament, c'est la paix du cœur. C'est la paix intérieure, c'est la paix de Dieu en nous. Et nous connaissons bien ce verset des Philippiens, chapitre 4, qui nous dit que Dieu donne cette paix-là à celui qui se confie en lui, à celui qui se décharge sur lui de ses inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce faites, connaître à Dieu tous vos besoins ou toutes vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Cette paix de Dieu, c'est un don du Père. Il est le Dieu de paix. C'est un don du Fils qui nous laisse, qui nous donne sa paix. C'est un don de l'Esprit Saint qui fait grandir en nous son fruit dont la paix fait partie. Cette paix du cœur vient de Dieu, mais elle aussi ne concerne pas notre béatitude. Elle n'est pas de notre ressort. La troisième réalité concernant la paix décrite dans le Nouveau Testament, c'est la paix dans les relations humaines, la paix entre les hommes. Et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous. » Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est cette paix-là qui concerne l'artisan de paix. Le chrétien est appelé à travailler à la paix avec tous. C'est vrai dans l'Église, et c'est vrai aussi en dehors de l'Église. Dans l'Église, cette paix devrait être la norme dans nos relations. Elle devrait caractériser toutes les relations entre les enfants de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En dehors de l'Église, la paix n'est pas toujours possible. Dans l'Église, elle est toujours possible. Elle n'est pas toujours recherchée, mais elle est toujours possible. En dehors de l'Église, elle n'est pas toujours possible. C'est ce que Paul nous fait comprendre dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 18, quand il écrit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous, parce que tout ne dépend pas que d'un parti, il faut que les deux parties s'accordent pour la paix. Donc, parfois, la paix n'est pas possible. Oui, la recherche de la paix n'est jamais garantie. Et elle est parfois difficile à obtenir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas toujours la volonté de toutes les parties concernées, nous venons de le dire. Et puis surtout parce que notre nature pécheresse est complètement incapable de produire la paix dont parle notre béatitude. La Bible appelle notre nature pécheresse la chair. Et ce que la chair produit, elle l'appelle les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul en parle dans son épître aux Galates, au chapitre 5. Et voilà ce qu'il dit. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Si on prend juste les œuvres de la chair qui, directement, œuvrent contre la paix, il y en a 8 sur 15. Mais en réalité, si on regarde les autres, elles y contribuent pas non plus. La chair ne cherche pas la paix. Elle ne cherche pas la paix selon Dieu. Ce que la chair recherche, c'est son propre intérêt. Elle cherche à satisfaire ses désirs, ses envies, qui sont souvent, pour ne pas dire toujours, contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi y a-t-il tant de guerres, tant de conflits, de menaces de guerre dans l'histoire des hommes ? On aurait pu comprendre que c'est pas bien et arrêter une fois pour toutes, hein, mais on n'y arrive pas. Pourquoi la paix obtenue est-elle toujours si fragile, si éphémère ? Et ça recommence en Afrique, j'ai vu ça aux nouvelles hier, dans ce pays où il y a eu tant de morts, il y a quelques décennies, je cherche le nom, ça m'échappe, au Rwanda, voilà, c'est reparti. Pourquoi tant de traités de paix bafoués ? Tant de conférences de paix qui ne débouchent sur rien, ou en tout cas sur rien de très utile, de très probant pour la paix. Tant de plans de paix qui sont proposés mais qui ne conviennent pas à toutes les parties. Tant de négociations engagées, tant d'efforts déployés pour si peu de résultats probants. La réponse que la Bible donne est la seule plausible, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est parce que le cœur de l'homme est pécheur, tortueux par-dessus tout, et que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, etc., etc. Et le problème du cœur de l'homme, c'est bien sûr le péché qui s'y trouve. Le péché qui nous enveloppe si facilement, dit l'Épître aux Hébreux. Si on descend à la racine du problème, le manque de paix dans la vie des hommes n'est pas fondamentalement un problème politique, économique ou social. Bien sûr, il y a des choses à dire sur ce sujet. Mais c'est fondamentalement un problème spirituel. C'est parce qu'il est coupé de Dieu, coupé du Dieu de paix, que l'homme n'a pas accès à cette paix véritable, à moins d'être réconcilié par Jésus-Christ avec le Dieu de paix. Non, malheureusement, tous les efforts humains n'arriveront jamais à instaurer la paix durable, la paix selon Dieu sur terre. Tant que les hommes rejetteront Jésus, le prince de paix, la paix sera impossible à atteindre. Elle restera une chimère derrière laquelle courent les hommes. Pourtant, malgré tout cela, Dieu désire que nous qui suivons le prince de paix, nous travaillions à la paix. C'est sa volonté, c'est notre point suivant. Et c'est possible par lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que par lui, cette paix est atteignable, elle est possible. Dieu désire que ses enfants soient des artisans de paix, des faiseurs de paix, des constructeurs de paix dans nos relations avec les autres et dans la relation des autres quand Dieu prépare cette bonne œuvre pour un de ses enfants. Oui, Dieu désire que ses enfants travaillent à la paix pour eux-mêmes et pour les autres. Et déjà dans l'Ancien Testament, cela ressortait clairement, par exemple, dans le psaume 34, verset 15, « Écarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Et quand nous agissons ainsi, quand nous travaillons à la paix, nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à Dieu quand nous travaillons à la paix. Nous ressemblons à notre Père céleste, qui est le Dieu de paix. Ressemblons au prince de la paix, Alors bien sûr, imparfaitement, pour l'instant. Dieu est le grand artisan de la paix qui veut que ses enfants lui ressemblent. Et Jésus, un petit peu plus loin, dans ce même chapitre du Sermon sur la montagne, dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, la chair, elle sait faire. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si ça, c'est pas faire œuvre de paix, alors vous serez fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Oui, en œuvrant pour la paix, je traduis que je suis enfant du Père céleste, du Dieu de paix, un fils ou une fille de Dieu. Et c'est pourquoi, dit Jésus dans notre béatitude, les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. En fait, si je suis disciple de Jésus, si je suis un enfant de Dieu, je dois du verbe « devoir »,« je dois », c'est un devoir. Je dois être un artisan de paix. C'est la volonté de Dieu qui est clairement manifestée dans sa parole et dans notre béatitude en particulier. Et pour souligner l'importance de la paix aux yeux de Dieu, de la paix dans nos relations aux yeux de Dieu, nous avons ce verset dans les évangiles qui nous fait comprendre que cette paix à rechercher et à trouver est même plus importante que le culte pour Dieu. Vous pensiez peut-être que le culte était la chose la plus importante que vous pouviez faire pour Dieu. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus, qui dit « Si donc tu présentes ton offrande, tu viens apporter ton culte à Dieu, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. » Ah ben laisse tomber le culte, parce que ce n'est pas la priorité. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oui, c'est la volonté du Dieu de paix que ses enfants vivent de sa paix. Alors il est temps d'essayer de mettre quand même quelques mots concrets sur ce que c'est qu'être un artisan de paix, parce que ce sont ces éléments concrets qui vont nous aider, je l'espère, à progresser sur ce chemin-là. Comment être un artisan de paix, de la paix de notre béatitude? Quels en sont les accents principaux? Que faire et ne pas faire pour être un artisan de paix selon Dieu? Un mot premièrement sur l'expression « artisan de paix » qui pourrait aussi se traduire du grec par « faiseur de paix ». On met les mains dans le cambouis et on travaille à la paix. C'est une expression qui, à l'évidence, met l'accent sur l'action. L'artisan de paix est quelqu'un qui agit concrètement, qui agit, qui se retrousse les manches, qui agit pour la paix, pour construire la paix, pour obtenir la paix et pour maintenir la paix une fois qu'on l'a construite. Être artisan de paix implique donc de la volonté, des efforts, de l'énergie, du temps et du savoir-faire. Car la paix ne se fait et ne se maintient jamais tout seul. Comment être un artisan de paix selon Dieu? J'aimerais rapidement proposer quatre points, c'est absolument pas exhaustif, mais ces quatre-là me paraissent essentiels. Pour être un artisan de paix, de la paix de notre béatitude, il faut premièrement être un enfant de Dieu. C'est une évidence, mais il faut le dire. La paix de cette béatitude, seuls les disciples de Jésus, les membres du royaume, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, peuvent travailler à cette paix-là. Il faut donc être un enfant de Dieu, avoir été réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Tous les êtres humains peuvent travailler à la paix, mais seuls les enfants de Dieu peuvent travailler à la paix selon Dieu. Deuxièmement, pour être un artisan de paix, de la paix de notre béatitude, il faut être en paix avec soi-même. Il faut non seulement être en paix avec Dieu, mais aussi en paix avec soi-même. Alors ça ne veut pas dire que l'artisan de paix, ben, ça y est, il n'a plus de soucis, il n'a plus de problèmes, tout va bien, aucune difficulté dans sa vie. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a appris et qu'il continue à apprendre à vivre en comptant sur Dieu. L'artisan de paix apprend, a appris à se décharger sur Dieu de tous ses soucis. Il a appris à faire confiance à Dieu dans les situations difficiles. La réalité, c'est que je ne peux pas mettre de l'énergie dans la durée, à la paix avec les autres quand je ne suis pas apaisé moi-même. Ça marchera un petit moment, mais on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Pour être un artisan de paix, de la paix de notre béatitude, il faut troisièmement dépendre de Dieu pour cela, pour le résultat. Ça peut paraître une évidence de le dire, mais c'est tellement facile, on l'a tous expérimenté, de s'appuyer sur ses propres forces, de s'appuyer sur sa propre sagesse. Et souvenons-nous ici de ce que Jacques dit au sujet de la sagesse d'en haut, pas la nôtre, celle qui vient de Dieu. Qui est premièrement pur et ensuite pacifique, ça tombe bien quand on veut être un artisan de paix. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, tout ce dont nous avons besoin pour être un artisan de paix, dans la sagesse qui vient de Dieu, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Rappelons-nous ici que la paix dont nous parlons, ce n'est pas que l'absence de conflit. Mais c'est mettre Dieu et sa justice au cœur de sa vie et au cœur de ses relations. C'est pourquoi c'est à la source de la paix véritable qu'il faut aller puiser pour faire œuvre de paix. Et bien évidemment, on comprend tous que la prière a un rôle important à jouer ici, pour dépendre de Dieu, pour lui demander sa sagesse, pour pouvoir être un artisan de paix selon lui. L'artisan de paix marche par l'esprit et non par la chair pour accomplir par la grâce de Dieu cette œuvre à laquelle Dieu l'invite. En résumé, l'artisan de paix, et là on sort des clichés qui pourraient peut-être exister dans notre société, c'est pas quelqu'un de cool qui est prêt à tous les compromis pour obtenir la paix. C'est pas ça un artisan de paix. C'est quelqu'un qui est attaché au Seigneur. Le quatrième point, pour être un artisan de paix, de la paix de notre béatitude, il faut quatrièmement rechercher les intérêts de l'autre. Là, on rentre dans le concret. Pour faire œuvre de paix et le faire bien, je dois, c'est une nécessité, me décentrer de moi-même. Je dois me décentrer de moi-même. Je dois refuser de ne vivre que pour moi. Je dois faire de la place dans ma vie pour les autres. Ce n'est pas possible autrement. Je dois refuser de chercher mes seuls intérêts. Parce que quand je recherche mes seuls intérêts, cela me conduira inévitablement au conflit. Je dois considérer les intérêts de l'autre et parfois même les mettre au-dessus des miens. Et l'exemple suprême dans ce domaine, c'est bien évidemment celui du Christ. Je ne lis pas le texte ici, nous le lirons au moment où nous prendrons la Sainte Cène, ce passage des Philippiens, qui nous rappelle que c'est bien ce que le Christ a fait. Il a mis nos intérêts avant les siens. Oui, pour nous apporter la paix, le Christ a fait passer nos intérêts avant les siens. Et il nous laisse un exemple puissant, stimulant, de ce que nous devons faire pour être des artisans de paix. Considérer les intérêts de l'autre et parfois les faire passer avant les miens demande que je donne de la priorité à l'écoute de l'autre. Jacques le dit dans son épître, « Soyez prompt à écouter, lent à parler. » Considérer les intérêts de l'autre et parfois les faire passer avant les miens demande que je cherche à voir l'autre comme Dieu le voit et puis comme Dieu me voit finalement aussi, demande que je ne cherche pas toujours à avoir raison, demande que je renonce à systématiquement tout ramener à moi ou tout prendre comme visant ma personne. Demande que je renonce à l'agressivité, à la violence, quelle que soit l'attitude de l'autre en face. Demande que je renonce à la vengeance, que je renonce à jeter de l'huile sur le feu, et qu'à la place je mette de l'huile dans les rouages. Demande que je renonce aux préjugés, aux on-dit, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein. Aux on-dit. Ce n'est pas les zombies, hein, j'ai dit aux on-dit, A-U-X-O-N-D-I-T. Que je renonce donc aux préjugés et que je travaille à me faire ma propre opinion. Demande que je renonce à prendre parti quand je ne suis pas directement concerné. Demande que je renonce à la médisance, au commérage, au potin. Demande que je renonce à mettre le couvercle sur les problèmes. La paix, la vraie paix ne s'obtient jamais en faisant comme si on ne voyait pas, en faisant comme si. Vous l'avez compris, et j'aurais pu dire encore beaucoup d'autres choses ici, mais je vais aller maintenant vers la conclusion. Être un faiseur de paix, c'est du travail, ça ne s'improvise pas. Ça demande des efforts et surtout ça demande des renoncements. Il y a un prix à payer, mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour sa gloire, et c'est une œuvre glorieuse. Quel titre merveilleux que celui de faiseur de paix, d'artisan de paix. Dans ce domaine de la paix, il me semble qu'il y a une question à se poser qui peut nous aider à agir de la bonne manière quand nous sommes face à une situation compliquée, à faire les bons choix. Cette question, c'est le titre d'un livre, vous la connaissez, de Charles Sheldon, qui est sorti, ça commence à dater en 1897. Ça a été réédité, etc., repris. Que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à ma place ? Que ferait le prince de paix pour obtenir la paix dans cette situation-là ? Qu'est-ce qu'il ferait ? En effet, si nous sommes familiers de Jésus, la réponse que nous apporterons à cette question nous aidera certainement à rechercher, à travailler à la paix. Et j'aimerais souligner une dernière chose avant de conclure. Même si je fais et si je suis tout ce que je viens de dire, ce qui est déjà pas mal, il n'y a jamais de garantie de réussite. Et c'est bien d'en être conscient. La paix dont nous parlons, ce n'est pas une question de recette. Hein, je mets tous les ingrédients et au final, j'ai la paix. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est avec de l'humain que nous travaillons. Et qu'il est question avant tout de relation à Dieu, de soumission à sa volonté. Et ça, c'est vrai, il faut que ce soit vrai pour tous les parties concernées. Alors, que conclure ? Ce que j'espère à la fin de ce message, c'est que vous êtes comme moi convaincus de l'importance de cette œuvre de paix à laquelle Dieu appelle chacun de ses enfants. Des enfants qui, en agissant pour la paix, disent clairement, disent avec force que le Dieu de paix est leur Père. Cependant, ce n'est pas parce que je suis un artisan de paix que je deviens un enfant de Dieu. Il faut le préciser, c'est parce que je suis enfant de Dieu que je suis en mesure d'être un artisan de paix, de la paix de notre béatitude. La différence est bien évidemment fondamentale. Chers amis, que Dieu nous aide chacun à bien comprendre toutes ces choses que Dieu désire voir dans chacune de nos vies et que Dieu désire voir dans la vie de notre Église. De toutes les églises d'ailleurs. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, verset 11, nous exhorte à rechercher la paix avec ténacité. Ça, c'est la traduction du semeur. Avec ténacité, avec persévérance. On ne lâche pas l'affaire. on persévère jusqu'à l'obtenir. Oui, la recherche de la paix demande de la persévérance, de la patience, des efforts, de la bienveillance, de l'humilité, etc. Tout ce que le fruit de l'esprit produit en nous. Elle implique que nous marchions par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair et pour que le fruit de l'esprit puisse grandir en nous. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce à chacun d'être tout d'abord réconcilié avec lui, c'est le point de départ. Qu'il nous fasse aussi la grâce de sa paix dans notre cœur. On est tous malmenés par les difficultés de la vie. Quel bonheur de trouver la paix de Dieu dans son cœur. Qu'il nous fasse aussi la grâce de sa paix dans nos relations. Ce sera pour notre bonheur. Heureux les artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Ce sera pour notre bonheur, mais ça sera aussi et surtout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est le Dieu de paix. Je termine avec la lecture de ces quelques versets à la fin, du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Sois un artisan de paix. Amen.